20h, 21h, France Info, les informés.
Aurélien Accard.
Bonsoir à tous, bienvenue, c'est les informés de France Info, votre débat sur l'actualité et nos quatre invités ce soir s'appellent Sébastien Hervieux. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste responsable Afrique à Courrier International. Bonsoir Étienne Girard.
Bonsoir.
Journaliste politique à Marianne. On accueille aussi Félix Raymond Colonna. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes communicant, cofondateur de l'agence de la Roca Conseil. Enfin, bonsoir Rodrigue Choual.
Bonsoir.
Avocat et président cofondateur du Cercle EB. Quatre invités, quatre sujets, deux parties dans l'émission. On joue en 4-4-2 ce soir dans les informés. On parlera tout à l'heure en effet de la reprise de la Ligue 1 de football ce vendredi, un petit mois après la victoire des Bleus à la Coupe du Monde. Que reste-t-il de cette deuxième étoile? Cela peut-il profiter à notre championnat? Avant cela, on va revenir sur l'actualité de ce vendredi marquée par l'ouverture d'une enquête de garde à vue et beaucoup de questions dans le Gard. Que faisait cette colonie allemande sur un terrain inondable alors que les orages éclataient? Un homme est toujours porté disparu, plus de 180 personnes dont beaucoup d'enfants ont été sauvés in extremis. On débattra aussi autour des difficultés de Ryanair, grève des pilotes dans 5 pays, une compagnie aérienne reine du low cost, mais ce modèle aurait-il déjà atteint ses limites? Et puis on parlera aussi de l'affaire Benalla, à la suspicion de fichage politique. La CNIL ouvre une enquête après la divulgation d'un fichier par une ONG belge, fichier qui classe par tendance politique tous ceux qui ont commenté l'affaire. Peut-on vraiment se plaindre quand on raconte sa vie et ses convictions sur les réseaux sociaux? Vaste débat, ce sera dans la deuxième partie des informés. Allez, on est parti pour une heure de débat. Un homme est donc toujours porté disparu dans le Gard au lendemain des inondations violentes qui ont complètement dévasté une colonie allemande. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd, hein. Plus de 180 personnes, dont beaucoup d'enfants, ont été évacués in extremis, accrochés pour certains dans les arbres, tentant de résister à la force d'un ruisseau soudain transformé en torrent. Et aujourd'hui, deux hommes ont été placés en garde à vue, notamment pour blessures volontaires. Les deux responsables de cette association allemande, car la colonie se trouvait sur un terrain inondé. Éric Morel et le procureur de la République de Nîmes.
L'ensemble de la colonie a été traumatisé, à commencer par les enfants, hein, puisque nous avons des enfants qui ont été légèrement blessés. Il y en a un qui a une fracture. Je cherche à savoir quelles sont les conditions d'exploitation de ce camping, et alors que le maire avait donné plusieurs avertissements sur la dangerosité de la situation. Nous les entendons de façon à comprendre pourquoi ils n'ont pas pris en compte les avertissements qui leur étaient donnés, et les raisons pour lesquelles ce camping était exploité dans une zone classée inondable.
Éric Morel, le procureur de la République de Nîmes, une colonie installée sur une zone inondable où aucune mesure visiblement n'est prise malgré la vigilance aux orages violents rabâchés un peu partout et au risque de crue. Comment c'est possible en 2018 en France, Sébastien Hervieux?
C'est une bonne question. Ce qui surprend dans cette affaire, c'est que le maire de ce village avait alerté dès l'année dernière sur les risques, la dangerosité de cet endroit, à la fois un terrain qui n'est pas homologué, une zone inondable. On s'est rendu compte également avec cette affaire qu'il y avait deux autres campings qui étaient juste à côté de cette rivière et que étaient homologués, avaient été aussi évacués, mais avaient été aussi homologués également. C'est toujours la même question. C'est difficile dans le détail de savoir ce qui s'est passé parce que les responsabilités souvent elles émergent au fur et à mesure, au fil des jours. Et après, c'est la question du principe de précaution. Dans quelle mesure on protège et on sécurise les gens sans entraver non plus la liberté d'exercice d'activité pour ce type de colonies de vacances. Et on reparlera peut-être tout à l'heure du sort des colonies de vacances en général en France.
D'autant que ces dangers étaient connus visiblement même par l'association parce que c'était même mis en avant sur leur site web. La rivière peut monter de plusieurs mètres en très peu de temps. L'eau n'est pas le seul danger. Il y a aussi une forêt de brousse dense. Il n'est pas rare que de grands incendies se produisent pendant les étés secs qui peuvent être difficilement combattus. On a l'impression pour cette association que c'était presque un argument de vente, mais on voit bien que ça a été terriblement, c'était grave cette affaire, Rodrigue Choual.
Effectivement, c'est d'autant plus grave qu'il y a potentiellement une victime. Il y a également des blessés, qu'il y avait des enfants. Il y a l'enjeu de savoir quelles sont les responsabilités. Alors, il y a le président et le vice-président de cette association qui sont en garde à vue et qui vont pouvoir donner plus d'informations sur les conditions de cet incident. Mais il y a aussi la question qu'on peut tous se poser, de savoir est-ce qu'au fond, les autorités publiques n'auraient pas pu agir à temps ou en amont, étant donné qu'on avait déjà un certain nombre d'éléments. Je crois avoir lu que le maire était avait prévenu donc l'association. Il y avait d'ailleurs, il avait saisi 48 heures avant. Il avait saisi le tribunal administratif, sachant que dans le code de l'environnement, il y a un article, donc c'est L561-1, qui permet aux autorités publiques, s'il y a donc une situation de danger ou s'il y a un risque naturel élevé, d'exproprier comme ça, pour, en déclarant d'utilité publique, un certain nombre de biens qui sont exposés à des risques. Alors, il faut des conditions très encadrées, qui sont cumulatives, mais en l'occurrence, elles étaient totalement établies, à savoir le risque, d'une part, qui est élevé, d'autre part, le risque aussi pour la vie humaine. Et donc voilà, c'est la question qu'on peut se poser, c'est ça. Est-ce que le préfet ou le maire n'aurait pas pu agir en amont, étant donné que le problème était connu?
Félix Raymond Colonna.
Bon, à la base de cet incident, il y a aussi un phénomène météorologique, dit épisode Cévenol, c'est-à-dire qu'en 2 heures dans le Gard, il est tombé 2 mois de précipitation. Et avec ces phénomènes-là, je pense qu'aussi à la fois les associations, les autorités, enfin tout le monde, ce sont des phénomènes qui sont difficiles à appréhender et avec une violence inouïe et voilà et si les risques existent, les épisodes ne sont pas si courants que ça. Il y a eu des précédents, hein, il y a 5 ans, 10 ans, même un petit peu avant, mais on ne sait pas quand ça tombe et avec le réchauffement climatique, les problèmes de l'environnement, on se rend compte que ces phénomènes deviennent de plus en plus violents. Et du coup, ça pose des problèmes importants.
Effectivement, les images sont d'ailleurs effectivement très impressionnantes. On va continuer d'en parler dans un instant. Je vous donnerai la parole, Étienne Girard. Ne vous inquiétez pas pour l'instant. Il est 20h10, l'essentiel de l'info avec Augustin Arrivé.
La mairie de Saint-Julien-de-Pérolas avait prévenu que la colonie de vacances victime de la crue de l'Ardèche hier se trouvait en zone inondable. Les deux responsables du terrain sont en garde à vue. Un encadrant allemand de 66 ans est toujours porté disparu. Emmanuel Macron a évoqué par téléphone le sort d'Oleg Sentsov avec Vladimir Poutine. Le président russe ne s'est pour l'instant engagé qu'à publier un bulletin de santé du cinéaste prisonnier. Il examinera les autres propositions françaises, notamment la visite de médecins de la Croix-Rouge. L'artiste est affaibli par une grève de la faim qui dure depuis 3 mois. La baisse du nombre de morts sur les routes en juillet, 5,5% de moins que l'an dernier. Et ceci après déjà 2 autres mois de baisse, mois de juillet, qui correspond à la réduction de la vitesse maximale sur le réseau secondaire. L'administration pénitentiaire sanctionne 130 surveillants de la prison de Gradignan en Gironde. Une mise à pied pour avoir participé au mouvement de blocage de l'établissement en janvier dernier. Pour la moitié d'entre eux, c'est du sursis et pour les autres, 5 jours fermes. Le syndicat UFAP-UNSA parle d'acharnement. La médaille d'or pour le Morbihanais Pierre Lecor au championnat d'Europe multisport. Il s'est imposé tout à l'heure sur le triathlon et c'est son premier titre international. Et puis la saison 2018-2019 de la Ligue 1 de football démarrera à 20h45 avec la réception de Toulouse au stade Vélodrome de Marseille. Nouveauté cette année, le droit pour les arbitres de céder de l'assistance vidéo.
France Info. 20h-21h, les informés. Aurélien Accard.
Le bilan aurait pu être extrêmement lourd dans le Gard, dans cette colonie allemande installée sur un terrain inondable. Un homme de 70 ans toujours porté disparu, mais plus de 180 personnes qui ont pu être sauvées in extremis après la montée subite des eaux qui a dévasté ce camp. 2 hommes sont en garde à vue. Les responsables de cette association allemande, dans le cadre d'une enquête pour blessure involontaire, fallait-il pour autant être plus ferme en amont avec cette association qui, visiblement, avait déjà été prévenue du danger, Étienne Girard?
La question qu'on peut se poser, effectivement, parce qu'on a failli revivre un épisode de type faute sur mer en 2010. Faut rappeler ce que c'est faute sur mer, c'est la tempête Xynthia
en Vendée,
qui s'abat en Vendée, des dizaines de morts dans la ville de faute sur mer qui habitait dans une zone inondable. Donc c'est exactement la même chose. Et alors, pendant le procès, on a eu un certain nombre d'intervenants qui nous ont expliqué qu'il y avait eu des erreurs et que plus jamais ces erreurs ne seraient commises. C'est pas facile pour les pouvoirs publics, parce qu'en effet, exproprier des gens pour une possibilité d'inondation très hypothétique, une fois par an, une fois tous les deux ans, une fois tous les trois ans, pendant en effet 2-3 heures, la décision n'est pas facile à prendre. Mais quand ça peut sauver des vies, il semble que là, il y a quand même un intérêt à le faire. Le réchauffement climatique fait que, qu'on le veuille ou non, il y aura de plus en plus d'épisodes comme celui-là. Donc peut-être qu'il serait bon qu'il y ait un guide des bonnes pratiques et que au niveau de l'État, au niveau des préfets de région peut-être, on dise oui dans ces cas-là, les consignes c'est d'exproprier par précaution.
Je reviens juste un instant sur ce dispositif d'urgence qui a quand même bien fonctionné pour d'autres campings. Il y a quand même 5 autres campings qui ont été évacués sans aucun problème en amont, 750 personnes évacuées par les pompiers. Sébastien Hervieux, qu'est-ce qui s'est passé avec ce cas précis?
Bah, c'est justement la question, puisque les autres étaient homologués, étaient en zone inondable également, mais eux étaient homologués. Et apparemment, le maire avait rappelé dès l'année dernière que cette installation ne respectait pas le plan d'urbanisme. Et voilà, et on se demande, moi je me mets à la place du maire qui a fait ses alertes dès l'année dernière, qui a prévenu l'association, qui a prévenu le tribunal administratif, qui 48 heures avant le drame a aussi alerté. Et on sait combien la responsabilité pour les maires, notamment les maires des petites communes, est lourde et difficile à vivre. Et là, d'une certaine manière, on verra si malheureusement il y a une victime ou pas potentielle, mais on l'espère que non, et on l'espère pour ce maire-là qui a tout fait et qui un jour pourrait peut-être devoir se retrouver devant un tribunal et expliquer ce qui s'est passé et peut-être avoir une responsabilité dans cela.
Et c'est l'enquête qui devra donner les réponses à toutes ces questions que l'on se pose ce soir, enquête dans le cadre de laquelle deux personnes se trouvent en garde à vue, les deux responsables de cette association allemande qui gérait cette colonie. On en vient dans les informés à cette grève historique chez Ryanair, la compagnie aérienne irlandaise reine du low cost. Elle est touchée par un mouvement coordonné de ses pilotes dans pas moins de 5 pays européens. 400 vols annulés, 55 000 passagers concernés en Irlande, en Suède, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Des pilotes qui, comme les hôtesses et stewards le mois dernier, dénoncent les contrats précaires, le dumping social et la pression maximale à tous les étages de la deuxième compagnie européenne. Les salariés demandent par exemple avoir des contrats relevant du code du travail dans lequel il travaille et non pas des contrats irlandais. De son côté, Ryanair ne lâche rien, ne concède pas non plus grand-chose à ses clients qu'elle refuse d'indemniser au motif qu'elle fait face à des circonstances exceptionnelles. Pourtant, la loi européenne est claire selon Morgane Buvin de l'UFC Que Choisir.
C'est clairement un coup de bluff puisque si la compagnie ne peut pas gérer ses pilotes, qui le peut ? Là, la grève est imputable aux pilotes de Ryanair, donc c'est à elle de gérer ça avec eux.
Ryanair qui est donc tenu d'indemniser ses clients selon Morgane Burvin de l'UFC Que Choisir de 250 à 600 euros normalement par passager en fonction de la distance. Mais Ryanair dit le contraire. Ryanair, on a appris aussi aujourd'hui qu'aux Pays-Bas, la compagnie a cassé la grève en faisant appel à des pilotes intérimaires, et ce alors qu'un tribunal lui avait expressément interdit de le faire il y a 2 jours. La question est donc toute simple. Est-ce que Ryanair vole sciemment au-dessus des lois et est-ce que ça peut durer longtemps comme ça? On va commencer avec vous, Rodrigue Choual.
Alors, je pense que déjà c'est important de rappeler, parce qu'il y a eu dans les informations qui ont été données quelques confusions sur est-ce qu'on parlait uniquement d'indemnisation ou est-ce qu'on parlait aussi de remboursement. En ce qui concerne le remboursement, ça ne fait pas l'objet d'une quelconque question. Donc Ryanair, d'après ce qui est dit, et c'est de toute façon une obligation, remboursera ou trouvera d'autres vols pour les personnes, donc les passagers, qui se sont retrouvés dans une situation où leurs vols ont été annulés. La question de l'indemnisation, effectivement, qui est distincte, elle a fait l'objet d'une réglementation précise et d'une jurisprudence récente. Et c'est pour ça que je vais juste faire un très rapide exposé pour que l'on comprenne bien. C'est qu'il y a donc le règlement européen de 2004 qui place le cadre principal, à savoir indemnisation entre 250 et 600 euros lorsque il y a annulation des vols. Voilà. Sauf qu'il prévoit un cas explicite qui est un cas exceptionnel de circonstances extraordinaires, et il liste aussi un certain nombre d'éléments qu'on peut qualifier de circonstances extraordinaires. Parmi ces circonstances extraordinaires, donc, il y a conditions météorologiques, un certain nombre de choses, instabilité politique. Et il y a aussi, effectivement, des grèves de pilotes, mais dans certaines conditions. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, récemment, en avril, une jurisprudence donc, de la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, a précisé ce qu'elle entendait par circonstances extraordinaires. Alors, il y avait un cas qui était un peu similaire, qui se rapprochait avec une autre compagnie aérienne. Mais il y avait une différence importante, c'est que...
Concrètement, est-ce que Ryanair peut être concerné par cette circonstance exceptionnelle?
Bah justement, UFC disent que...
Eux disent que oui, tout le monde dit non.
Justement, ça dépend de l'appréciation de... et c'est parce qu'il y a deux conditions cumulatives, pour faire simple. La première condition, c'est qu'il faut effectivement que l'élément qui a conduit à cette grève n'ait pas pu être anticipé par la compagnie aérienne. Donc, pas circonstance normale. Le second élément, c'est qu'ensuite, que ça échappe à son contrôle. Sur le premier élément, dans la jurisprudence précédente, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une décision de la compagnie aérienne pour une restructuration, et à la suite de cette décision, il y avait des grèves. Là, en l'occurrence, ces grèves interviennent sans qu'il y ait eu une décision de restructuration ou de réorganisation, et c'est simplement pour revendiquer de meilleures conditions
donc,
de travail.
Donc ça peut
poser question.
Et ça peut se débattre. Félix Raymond Colonna.
Bon, Ryanair, déjà, c'est la première compagnie aérienne en Europe en termes de passagers. Vous l'avez dit, elle est basée en Irlande. C'est aussi la plus rentable, en termes économiquement parlant, d'Europe.
1,5 milliard de bénéfices l'an dernier.
Voilà, exactement. En France, on a eu du coup les problèmes avec Air France. On a en ce moment aussi les problèmes avec les contrôleurs aériens qui bloquent tout le sud-est de la France, ou en tout cas qui perturbent un certain nombre de vols. On a aussi en ce moment la hausse du kérosène et tous ces événements-là font que l'aérien en France est particulièrement sous pression. Donc maintenant la question c'est est-ce que le modèle de l'ultra low cost devient si difficile à tenir que ça part un petit peu en vrille dans ce genre de compagnie. Ça reste ouvert. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs aussi dans le low cost qui sont arrivés, notamment les compagnies traditionnelles qui s'y sont mises. Voilà, donc après en termes de communication, l'enjeu pour la compagnie va être de pas se mettre à dos ses usagers. Hein, puisque les problèmes pour eux sont quand même assez importants ces périodes de vacances et ensuite le deuxième chose à faire en coulisses c'est de régler ces conflits sociaux dont Ryanair on sait qu'il y a une compagnie quand même avec un bagage un petit peu sulfureux
un peu lourd,
que
ce
soit avec les institutions ou même chez elle quoi, voilà.
Et on a droit qu'il y a normalement un bagage en soute chez Ryanair, même pas. 20h20, on va poursuivre ce débat. 20h20, l'essentiel de l'info avec Augustin Rivé.
Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame ce soir une enquête crédible au Yémen. C'est ce que souhaitait déjà cette nuit le secrétaire général des Nations Unies. Un raid de la coalition menée par l'Arabie Saoudite a tué hier au moins 29 enfants. Coalition qui accuse les rebelles houthis d'utiliser ces enfants comme boucliers humains. Washington double les taxes sur les importations d'aluminium et d'acier venus de Turquie. Résultat, le cours de la livre turque s'est écroulé aujourd'hui, moins 16%. Recep Tayyip Erdogan a demandé à son peuple d'échanger en livres toutes les devises étrangères qu'il pourrait posséder. Deux gérants associatifs allemands en garde à vue, le terrain englouti par la crue de l'Ardèche hier à Saint-Julien-de-Pérola, c'était sous leur responsabilité. C'est dans le Gard, un homme de 66 ans est toujours porté disparu, il encadrait une colonie de vacances installée sur place. La mairie avait apparemment averti que la zone était inondable. Le rappel aujourd'hui de fromage de chèvre Pélardon, la société Mounier les avait commercialisés depuis la mi-juillet sur les marchés et dans les commerces de détail, mais il présente ces fromages des risques de contamination à la salmonelle. Pierre Lecor, sacré champion d'Europe de triathlon, à 28 ans c'est le premier titre international de sa carrière. Il s'est imposé au championnat multisport de Glasgow. Et puis la Ligue 1 de football est de retour. Nouvelle saison et nouvelles règles d'arbitrage. L'assistance vidéo est autorisée. Ça commence ce soir avec un Marseille-Toulouse dont le coup d'envoi sera donné à 20h45.
France Info. 20h, 21h, les informés. Aurélien Accard.
Ryanair peut-elle gagner son bras de fer contre ses propres pilotes ou bien la compagnie low cost est-elle arrivée aux limites de son système? Ses salariés, en tout cas, se rebiffent. Grève simultanée des pilotes dans 5 pays aujourd'hui, après de longs mois déjà d'une grogne qui monte. La compagnie irlandaise doit-elle faire des concessions et rogner un peu sur ses marges, Étienne Girard?
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Ryanair a les moyens de ne pas faire de concessions et d'aller au bras de fer avec ses salariés. Enfin, ou plutôt, les gens qui travaillent pour Ryanair, puisqu'ils ne sont pas salariés, vous l'avez rappelé. Vous avez aussi rappelé que
pas
c'est...
tous, en tout cas.
Oui, oui. Vous avez rappelé que c'est la compagnie la plus rentable d'Europe. 1,5 milliard d'euros de bénéfices l'année dernière. C'est un matelas très confortable et qui lui permet de voir venir, si je puis dire. Quand on apprend qu'en plus, ils ne vont pas indemniser immédiatement les clients qui n'auront pas leur vol ou qui n'ont pas eu leur vol, on voit bien que c'est une entreprise qui est prête à gagner du temps et qui ne se sent pas du tout acculée et qui ne se sent pas du tout en position de faire des concessions. Et pourquoi ? Parce que leur modèle économique est extrêmement résilient. C'est que c'est une entreprise Ryanair plutôt cynique, qui joue avec les lois, qui fait de l'optimisation fiscale, qui n'accorde pas à son image de marque et à sa réputation sociale une importance démesurée.
Mmh. C'est moins qu'on puisse dire.
Mais ils s'en fichent parce qu'ils ont des clients. Et moi, je vais vous poser une question, ou je pose à tout le monde une question. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est la compagnie qui a le plus de clients en Europe. Est-ce que vous êtes prêts à payer 3 fois plus cher vos billets par solidarité pour les gens qui travaillent pour Ryanair et qui vivent dans des conditions de travail déplorables? Je suis pas sûr que la réponse sera immédiatement oui. Voilà, on est dans un système où c'est difficile de faire des efforts pour des gens qu'on connaît pas parce que nous non plus on n'a pas un pouvoir d'achat démesuré. Quand on peut payer un billet d'avion 40 euros au lieu de le payer 300 euros, ben on est content.
Sébastien Hervieux, est-ce que ça tient pas aussi un peu au patron de Ryanair, l'Irlandais Michael O'Leary, qui est quand même assez sulfureux, et pour revenir sur la question d'Étienne Girard, est-ce que finalement cette grève, ça lui fait pas peur ?
Non, ça lui fait pas peur. Ça fait 30 ans qu'il prouve qu'il essaie justement de jouer avec ce modèle social. Mais est-ce que là, on n'assiste pas à une crise de croissance, justement? Est-ce que la boîte de Pandore est pas ouverte? Il a été obligé de reconnaître les syndicats dans son entreprise pour la première fois l'année dernière. Ce qui se passe actuellement est sans doute une conséquence. Il y avait le quotidien belge Le Soir qui disait Ryanair voudrait encore jouer au pirate social et dénoncer un peu cette maturité d'adolescente. Ils ont atteint une taille aujourd'hui critique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 30 ans, Ryanair a surgi aussi dans un moment un peu de dérégulation européenne à ce moment-là. Mmh. Et aujourd'hui, on voit une sorte de mobilisation syndicale européenne, 30 ans plus tard, avec des syndicats et des salariés de différents pays qui s'allient et qui se disent « on peut avoir du poids, on peut faire une différence ». Alors, vous parliez tout à l'heure des passagers. Effectivement, pour l'instant, c'est les salariés qui lâchent et pas les passagers. Mais les passagers, quand ils vont voir ça passer aussi, ils vont se rendre compte peut-être un peu plus de la condition des pilotes. Est-ce que aussi ils vont se rendre compte du coût social de cela.
Condition des pilotes, surtout si ça pose des problèmes de sécurité. Il y a eu plusieurs incidents régulièrement. À un moment donné,
il y a des témoignages dans un quotidien allemand, par exemple, de pilotes qui disent pour boucher les trous, on était obligé parfois de travailler 15 heures d'affilée. On parle de pilotes. Donc là, je pense qu'en termes de sécurité, il y a un vrai problème qui se pose.
Rodrigue Choual.
Alors, est-ce que de là, je pense qu'on est tous d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, Ryanair peut-être aujourd'hui se trouve confronté à des difficultés, que ce soit sur le front social concernant également les questions des indemnisations et pour les passagers, ça va se poser. Mais je pense pas qu'on puisse acter comme ça le décès ou la fin du modèle social.
C'est pas le début de la fin.
Non,
même pas le début de la fin.
Je pense pas. Je pense que ce qui va devoir se passer, ça va être une obligation de se réorganiser, effectivement, d'intégrer dans leur logiciel et dans leur logique d'entreprise l'existence et de revendications sociales des syndicats et aussi de faire, mais c'est comme dans toutes les entreprises, de faire des concessions sur un certain nombre de points. Mais comme ça a été rappelé, ils ont une rentabilité qui est très importante. Ils ont de quoi voir venir. Et je ne pense pas que dès demain, les clients vont soudainement arrêter de prendre Ryanair en solidarité, même si ça pourrait être effectivement quelque chose de beau, en solidarité avec les pilotes.
En termes de communication, est-ce que Michael O'Leary, qui est quand même le roi de la punchline, et je vous en cite rien, une seule, il en a rien à foutre, je cite, que personne ne l'aime, est-ce que ce patron de Ryanair va faire des concessions, doit faire des concessions, Félix Raymond Colonna ?
Vous l'avez dit, c'est un patron sulfureux, c'est un peu sa marque de fabrique. Maintenant, sur la durée, est-ce que ça peut perdurer ? En général, on pardonne pas tout le temps les erreurs à ce genre d'individu. À un moment donné, ils vont faire soit une grosse erreur ou soit un faux pas, et là, ça pourrait être un peu compliqué pour lui.
Mmh. Sébastien Hervieux.
Par exemple, je parlais tout à l'heure des problèmes de sécurité. Pour l'instant, il n'y a jamais eu d'accident, terrible. Maintenant, si demain, parce que les pilotes sont surmenés, que les jauges de carburant sont limites, etc. on arrive à un accident, là, ça sera vraiment assez problématique.
Toute une question de rapport de force. Voilà, toute une question de rapport de force. Et là, on sent que du côté des salariés, ça monte. Et encore une fois, c'est intéressant cette mobilisation européenne. On parle de cas comme Amazon, par exemple, où des salariés de différents pays sont en train de se poser des questions pour s'allier, essayer et de faire avancer.
Et pardon, juste un dernier mot. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi l'arrivée de nouveaux concurrents sur ce secteur-là. Et on parle aussi de pilotes qui partiraient massivement vers la concurrence ou vers les autres. Donc à un moment donné, s'ils veulent garder leurs pilotes et leurs ressources humaines, il va falloir peut-être un peu changer.
Allez, les informés, ça se poursuit dans moins de 3 minutes. À tout de suite. Ouais.
Après la Russie, ils sont de retour à Marseille.
Oh, l'arrêt exceptionnel de Steve Mandanda.
À Lyon.
Nabil Fekir dans la surface.
Nabil Fekir à la 74e minute.
À Paris.
Pas de hors-jeu pour Mbappé. Ça fait but.
Pas de week-end sans vos champions. Pas de week-end sans Beansport. Ce week-end, vivez la reprise de la Ligue 1 Conforama. Demain, suivez le Multiligue 1 avec 5 matchs en direct. Et dimanche, ne manquez pas Olympique Lyonnais Amiens SC et Girondins de Bordeaux RC Strasbourg en exclusivité sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com.
Il suffit de 6 numéros. Ce samedi, jackpot loto de 10 millions d'euros et 10 gagnants à 20 000 euros tirés au sort. Voir règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La météo avec Jean-Pierre Hameau.
Avec le retour des hautes pressions, le soleil va briller demain matin dans la plupart des régions, excepté de la Bretagne à la basse Normandie, où les nuages seront encore bien présents, apportant ponctuellement quelques ondées. Pas de jaloux l'après-midi, le soleil va s'imposer quasiment partout. Seuls les massifs pyrénéens et le relief des Alpes du Sud verront se développer des cumulus d'évolution diurne, lâchant des averses avant la fin de la journée. Côté température, les minimales au lever du jour seront généralement comprises entre 8 et 15 degrés, comptez entre 16 et 21 degrés près de la Grande Bleue. Les maximales partent à la hausse avec des valeurs comprises entre 21 et 25 degrés dans le nord et le nord-ouest, 25 à 30 degrés dans les autres régions et jusqu'à 33 degrés dans le sud.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, excellente soirée, merci d'écouter France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
À 20h30, l'info Augustin arrivé.
Vous vous souvenez peut-être de la bagarre provoquée par une promotion sur de la pâte à tartiner. C'était en janvier dans un grand magasin de Beauvais. Nouvel exemple de fièvre acheteuse hier dans une boutique de la Gare du Nord à Paris. Une enseigne de chaussures proposait une vente flash. Irène, la vendeuse, n'avait pas vraiment prévu ce qui allait se passer.
Nous, on est un magasin en fait de chaussures pas chères et on avait mis une affiche comme quoi les chaussures étaient à 5 euros. Donc en fait, les gens, ils ont fait comme s'ils étaient au marché, ils se sont servis tout seuls. Et comme c'est des tours en fait de chaussures, ça a commencé à tomber. Quand ça a commencé à tomber, ils ont plus rien calculé, ils ont juste continué à se servir. Les gens continuent à rentrer. On pouvait plus bouger en fait dans le magasin. Petit à petit, en voyant que la situation est devenue hors de contrôle, on s'est retrouvé avec des gens qui sont venus pour voler, même des gens qui étaient dans le magasin qui ont profité de la situation pour partir avec des paires de chaussures pendant que la personne essayait de calmer les choses en fait, mais c'était impossible parce que la vendeuse était toute seule. Tout le sol du magasin était rempli d'un tas de boîtes de chaussures, quelques paires de chaussures toutes seules, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment la pagaille de chez Pagaille. J'ai jamais vu ça.
Irène, vendeuse dans cette boutique parisienne de chaussures dont les propriétaires ont porté plainte ce matin, le préjudice n'a pas encore été estimé. Le retour progressif du courant électrique dans toutes les régions balayées par les orages d'hier. Le ressortissant allemand disparu dans le Gard n'a toujours pas été retrouvé. Un homme de 66 ans qui encadrait une colonie de vacances et qui a été emporté par une crue de la rivière Ardèche. Ce campement était installé sur le terrain d'une association allemande. Les deux responsables de cette association ont été placés en garde à vue ce matin. D'après le parquet de Nîmes, la municipalité les avait prévenus que la zone était inondable. Vladimir Poutine promet de faire publier rapidement un bulletin de santé de l'Exensov. C'est le seul élément obtenu pour l'instant par Emmanuel Macron. Il téléphonait aujourd'hui à Moscou pour plaider la cause du cinéaste ukrainien emprisonné et en grève de la faim depuis 3 mois. Le président français a également suggéré l'envoi de médecins de la Croix-Rouge dans sa cellule et la possibilité de laisser l'un de ses proches lui rendre visite. Pour l'instant, l'artiste est laissé à l'isolement. Dans moins d'un quart d'heure, la reprise du championnat de Ligue 1 de football avec Marseille face à Toulouse et le recours possible désormais à l'arbitrage vidéo. 9 matchs sont en cours en Ligue 2, c'est la 3e journée. Une demi-heure de jeu avec entre autres Lens, Lens qui mène 2-0 sur le terrain de Nancy ou Valenciennes qui a ouvert le score face à Châteauroux. Le Vannetais Pierre Lecor brille de son côté en triathlon. Il est devenu tout à l'heure champion d'Europe de la discipline à Glasgow. Premier titre international de sa carrière à 28 ans. Il est 20h33 et je redonne la parole à Aurélien Accard pour la suite des informés sur France Info.
20h-21h, les informés.
Aurélien Accard.
Et les informés ce soir s'appellent Sébastien Hervieux, journaliste responsable Afrique à Courrier International, Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, Félix Raymond Colonna, communicant cofondateur de l'agence De La Roca Conseil, et Rodrigue Choual, avocat et président cofondateur du Cercle EB. C'est une polémique comme sans doute seul le réseau Twitter sait les faire naître. Tout part comme beaucoup de choses cet été de l'affaire Benalla, qui a suscité énormément de messages sur le réseau social. Plus de 4 millions de tweets en 2 semaines, c'est par exemple beaucoup plus que Balance ton porc, avec 773 000 tweets seulement, entre guillemets. Du coup, ça a suscité l'intérêt d'une ONG belge. Elle s'appelle Disinfolab. Elle a mené une étude pour voir si le nombre de tweets avait pu être gonflé par des faux comptes, notamment russes, dans le but d'amplifier, de désinformer, de manipuler. Les résultats de l'enquête sont en fait très nuancés. Mais c'est là qu'arrive le deuxième problème, le gros pépin. L'ONG a publié un fichier, un tableau qui répertorie les comptes qui ont parlé de cette affaire Benalla en les classant politiquement dans un tableau disponible au téléchargement d'un simple clic. C'est ça qui provoque la polémique. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a d'ailleurs ouvert une enquête. Les internautes se plaignent d'avoir été fichés. Est-ce qu'ils ont raison de se plaindre, Sébastien Hervieux ?
Oh, je pense qu'ils ont raison de se plaindre, puisque de toute façon, il y a cet article 8 de la loi informatique et liberté qui interdit justement le traitement des données personnelles qui permettrait de révéler les opinions politiques. Alors évidemment, on pourra toujours dire sur Twitter, vous mettez ce que vous voulez, comme sur Facebook d'ailleurs, vous pouvez dire je suis de gauche, de droite, ou en tout cas ce que vous mettez en avant pourra vous classer à gauche ou à droite. Mais il y a une grande différence, je pense, entre exprimer une opinion personnelle et se retrouver, agglomérer toute une série de données, catégoriser tout ça, classifier tout ça et vous retrouver à l'hémisphère gauche, à l'hémisphère droit sans que vous l'ayez voulu. Et voilà, je pense qu'il y a une vraie tension entre la liberté individuelle et le fait d'agglomérer ces données et de pas avoir justement à aboutir à cette révélation d'opinion politique, même si la personne sait ce qu'elle veut faire.
Le problème, Rodrigue Choual, c'est que ça se trouve dans un même fichier, c'est ça le problème ?
Totalement. Le problème, c'est vraiment ça, c'est la catégorisation comme ça, parce que effectivement, on peut trouver ça paradoxal. Nos opinions sont données sur un réseau social public comme Twitter. On peut considérer que le fait de reprendre simplement ce qui a été diffusé sur ce réseau ne constitue pas une infraction. Mais le fait d'avoir été catégorisé comme ça dans un fichier où il y avait en plus, c'est ce qu'on appelle les informations sensibles dans les informations personnelles, à savoir les opinions politiques, et en plus que c'est l'autre élément clé, c'est qu'on n'a pas demandé préalablement l'autorisation aux personnes concernées de pouvoir les citer ou les classer dans ces deux fichiers. Donc dans ces deux fichiers, en plus, où il y a pêle-mêle un certain nombre d'individus qui ont des convictions politiques qui sont peut-être plus ou moins proches, mais plus ou moins différents, pour une déclaration qu'on a faite sur un réseau social, on a le droit de ne pas accepter d'être comme ça catégorisé ensuite dans un groupe politique, dans une liste.
Étienne Girard.
Oui, le problème, c'est que c'est pas seulement un débat intellectuel, cette histoire. Ça peut avoir des conséquences fâcheuses dans la vraie vie de certaines personnes qui ont été fichées. Un simple exemple, Monsieur Hubert Dupont, il tweet sur le fichier, on va le catégoriser en tant que le péniste. Ah, il est pour Marion Maréchal Le Pen. Il est où Marine Le Pen ? Eh bien, son employeur pourrait très bien aller le voir en lui disant « Tu te rends compte qu'une ONG indépendante te catégorise en le péniste, en membre du Front National ou en sympathisant du Front National c'est un petit problème, tu ne peux plus faire partie de cette entreprise. » Ou alors quelqu'un qui a affiché des opinions proches de Jean-Luc Mélenchon de la même façon. « Ah oui, tu es mélenchoniste, tu ne peux plus faire... Ça ne fait pas partie des valeurs de l'entreprise. »
Il ne pourra plus travailler chez Ryanair, si je comprends bien. C'est pour revenir au débat d'avant. Félix, c'est mon colonel.
Vous rigolez sur Ryanair, mais Ryanair, c'est connu, avait infiltré un forum de pilotes, ouais, etc., ouais. D'employés. Et finalement, il y avait eu, je crois, des problèmes là-dessus suite à ça. Donc, sur cette affaire, moi, ce que je vois, c'est l'identité numérique des citoyens, des gens. là on se rend compte enfin une énième fois que bah oui, on peut pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est voilà, on est responsable de ce qu'on dit. Donc je pense qu'il va falloir encore plusieurs affaires ou scandales pour que tout le monde s'en rende bien compte. Donc vis-à-vis de ça, bah, il faut sensibiliser. Il faut aussi l'intégrer une bonne fois pour toutes. Maintenant, est-ce que cette ONG devait le faire, etc. Bah non, on le voit, c'est interdit. A priori, dans la RGPD, la législation européenne, c'est aussi qui est en train de se mettre en place. Et qui en fait la CNIL au niveau européen, c'est toujours interdit.
Et via laquelle d'ailleurs les internautes ont dû revalider certains droits, notamment sur le réseau social Twitter, il y a pas très longtemps.
Effectivement. Donc du coup ça va être mis en place. On a besoin de ces garde-fous pour garantir nos identités numériques. Le problème avec le numérique, c'est que en termes de capacité technique, maintenant tout ce qu'on dit peut être enregistré et surtout analysé de manière vraiment très importante avec le big data, etc. Avant, on pouvait raconter 2-3 bêtises comme ça sur la place du village. Bon, les gens l'oubliaient. Maintenant, tout est inscrit. Donc voilà, il faut vraiment l'intégrer. Dernière chose sur la communication de l'ONG. Moi, je remarque rapidement et c'est quand même excusé. Donc il faut
ça,
aussi.
C'est bien.
C'est bien parce que
en retirant le fichier,
répondant souvent personnellement aux tweetos, etc. Donc ça, c'est bien. Il y a une erreur, elles l'ont reconnu.
Ça change.
Ça change.
Sébastien Hervieux.
Oui, juste pour dire qu'il y a une sorte d'hypocrisie aussi, puisque d'une certaine manière, des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook font ce travail de classification pour savoir, selon l'utilisateur de Facebook, est-ce qu'il est de gauche ou de droite, pour après aller vendre ses données à certaines entreprises qui ont plutôt envie d'aller toucher des gens qui ont plutôt des sensibilités de gauche ou des sensibilités de droite. Et tout ça existe, et tout ça est vendu très cher avec des gros bénéfices de la part de Facebook. Donc c'est à la fois une sensibilisation des gens, mais c'est aussi un niveau de protection qui doit augmenter sur ces réseaux sociaux.
Et on va poursuivre ce débat dans un court instant. D'abord, on fait un nouveau rappel de l'info avec Augustin Arrivé. Il est 20h40.
La réunion en ce moment même du Conseil de sécurité des Nations Unies, conseil qui réclame une enquête fiable au Yémen. Un raid aérien a tué au moins 29 enfants hier dans le nord du pays. Attaque de la coalition menée par l'Arabie Saoudite en guerre contre les rebelles Houthis. La mairie de Saint-Julien de Pérolas avait prévenu que la colonie de vacances victime de la crue de l'Ardèche hier se trouvait en zone inondable. Les deux responsables du terrain sont en garde à vue. Un encadrant allemand de 66 ans est toujours porté disparu. La baisse du nombre de morts sur les routes en juillet, 5,5% de moins que l'an dernier, et ceci après déjà 2 autres mois de baisse, mois de juillet qui correspond à la réduction de la vitesse maximale sur le réseau secondaire. L'administration pénitentiaire sanctionne 130 surveillants de la prison de Gradignan en Gironde, une mise à pied pour avoir participé au mouvement de blocage de l'établissement en janvier dernier. Pour la moitié d'entre eux, c'est du sursis, et pour les autres, 5 jours fermes. Le syndicat UFAPUNSA parle d'acharnement. La médaille d'or pour le Morbihanais Pierre Lecor au championnat d'Europe multisport. Il s'est imposé tout à l'heure sur le triathlon et c'est son premier titre international. Et puis la saison 2018-2019 de la Ligue 1 de football démarre dans moins de 5 minutes avec la réception de Toulouse au stade Vélodrome de Marseille. Nouveauté cette année, le droit pour les arbitres de céder de l'assistance vidéo.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Aurélien Accard.
Et stupide barbouze, je ne suis pas un bot russe. Extrait d'un tweet, vous l'aurez reconnu, de Jean-Luc Mélenchon pour se plaindre, comme d'autres, d'avoir été fiché par une ONG belge pour avoir simplement tweeté sur l'affaire Benalla. On parlait de ce fichier qui est disponible en ligne, qui catégorise les gens selon leur opinion politique, et aussi du paradoxe de se plaindre de ce fichier quand on sait que nous tous, nous donnons tous les jours des informations privées, précises, et parfois même nos opinions au réseau sociaux, Rodrigue Chual.
Effectivement, c'est vrai qu'on a parlé de la dimension de la légalité, mais je trouve que c'est un vrai sujet, ce sujet-là, parce que sur les réseaux sociaux, on l'a vu durant les différentes affaires qu'il y a eu, durant l'affaire Benalla, mais toutes les affaires, notamment qui touchent à la politique, il y a une violence qui est incroyable. Il y a une violence qui est incroyable, qui a été plusieurs fois mise en avant, qui est parfois injustifiée, faut le dire, et qu'on condamne souvent. Mais c'est une violence qui repose aussi sur le fait qu'un certain nombre d'individus ont la possibilité d'exprimer des opinions, d'insulter, d'injurier, tout en ayant comme ça cette possibilité d'être caché. Et je pense que ça lance aussi ce débat-là. C'est de savoir est-ce qu'au fond, on peut se permettre de tout faire, de tout dire, aussi ignoble que ce soit, sans pour cela être inquiété, parce qu'on parle pas d'un réseau social comme Facebook où on a un réseau privé avec ses amis, parce qu'on a la possibilité aussi de le faire sur Twitter, hein, juste pour rappeler, on a la possibilité d'avoir...
fermer son compte au public.
Exactement. Mais à partir du moment où on décide d'interagir avec le public, d'avoir et d'exprimer des opinions publiques, je ne dis pas évidemment qu'il faut qu'on soit catégorisé sur des sites ou dans des documents, mais la question se pose de savoir est-ce qu'on peut comme ça, est-ce qu'on pourra toujours rester comme ça dans une situation où on peut librement insulter, injurier. Je pense que c'est un vrai problème aussi qui se pose par rapport aux réseaux sociaux.
Félix Raymond Colonna.
Bon, simplement pour revenir déjà sur la finalité de cette étude, ce qui est drôle, c'est que finalement, ça n'a pas marché d'aller jusqu'au fichage des gens, etc. Ils n'ont pas réussi à prouver l'objectif de l'enquête.
L'idée de base, c'était de démontrer, entre guillemets, qu'il y avait des robots russes, entre guillemets, qui avaient amplifié le mouvement, et l'enquête, elle est effectivement très, très nuancée.
Voilà, elle est très nuancée. Donc, il y a eu mea culpa de l'ONG, voilà, faut le rappeler. En revanche, sur tout ce qui est influence sur les réseaux sociaux, robots, etc., modification un peu des influences des sondages en ligne qu'on trouve parfois sur les sites des médias, etc. Ça existe. Il y a quand même une espèce de guerre un peu digitale, numérique, où d'un côté, chaque camp essaye d'influencer via des bouts, via des bots, des faux comptes ou des relais de comptes les résultats. Twitter a récemment, la fin juillet, supprimé des centaines de comptes, des centaines de milliers de comptes Twitter. Voilà, Obama, je crois, a perdu 100 000 abonnés, Trump 400 000, vous peut-être, moi j'en ai perdu 50, je crois. Mais j'en ai pas autant. Ah bah bravo.
T'es dit vrai, moi aussi.
Sébastien Hervieux sur ce débat.
C'est la question de la parole publique et l'espace public. Et tout à l'heure, vous disiez que finalement, sur Facebook, où on pouvait avoir un compte Twitter privé, est-ce que finalement, sur Facebook, ce qu'on met est privé? Est-ce que finalement, moi j'ai pris l'habitude de me dire que tout ce qui était sur Facebook, même dans mon réseau privé, pouvait être public, était public. Et je pense qu'il y a une vraie éducation. Et le paradoxe, c'est que c'est la jeune génération a sans doute beaucoup à nous apprendre, la plus jeune génération, je suis pas si vieux que ça, mais eux ont pris conscience de l'importance de quand ils disaient quelque chose et comment se protéger au mieux, et finalement c'est peut-être les générations qui sont plus novices ou qui ont plus de mal à saisir de cet objet, qui ont encore un peu de mal à comprendre les tenants et les aboutissants et à se protéger tout simplement.
Donc très rapidement pour terminer sur ce débat, ça peut avoir une vertu, Félix Raymond Colonna, c'est d'avoir montré en fait ce qui se passe tous les jours sur les réseaux sociaux au grand public.
Voilà, et puis il y aura d'autres scandales, il y aura d'autres affaires de ce type-là, faut simplement maintenant, c'est un phénomène qui est très récent, les institutions, les garde-fous sont en train de se poser, vous avez un rôle, les médias, un rôle très important.
Oui, vous m'avez fait un peu peur là.
Non mais d'analyse, de recul sur l'information et de dénonciation des fake news quand elles sont fake news et de ce qui est correct par la suite. Voilà.
Allez, on va passer au dernier débat de la soirée dans les informés. On est pile à l'heure pour le retour de la Ligue 1 de football, moins d'un mois après la finale de la Coupe du Monde, et cette deuxième étoile décrochée par les Bleus, c'est ce soir que reprend le championnat avec un match au Stade Vélodrome entre Marseille et Toulouse, où l'esprit de la Coupe du Monde flotte dans le stade ce soir, puisque c'est le trophée qui est présenté avec certains des joueurs qui sont parmi le groupe des champions du monde. Il y a donc un petit esprit Coupe du Monde qui flotte là-bas au Vélodrome. La Ligue 1 va-t-elle bénéficier de cette épopée française en Coupe du Monde? Que reste-t-il au fond de cette deuxième étoile glanée en Russie? Est-ce que c'est forcément bon pour le foot et le championnat français, Sébastien Hervieux?
Bah, il faut tout simplement se rappeler, il y a 20 ans, en 98, on a eu, après la victoire de l'équipe de France, une affluence dans les stades. On est passé d'une moyenne de 15 000 spectateurs à 20 000 dans la foulée. C'est redescendu plus tard. Il y a également eu une hausse considérable du nombre de licenciés. Mais je crois qu'il n'y aura pas que ça. C'est un effet qui, on l'a vu il y a 20 ans également, que c'est un effet temporaire. Il y a d'autres choses qui vont donner au football français plus de force. On a des stades qui sont plus attractifs avec ce qui s'est passé avec l'Euro 2016, même s'ils sont pas toujours aussi bien remplis. On a des droits télé qui ont explosé sur 2020-2024. Ils se montent à plus $1 milliard, 1,150 milliard, c'est plus 60%, ce qui va donner pas mal d'argent pour que le football français puisse se développer. Et puis on l'a vu récemment avec le trophée des champions qui a eu lieu à Shenzhen en Chine. Bien, il y a une internationalisation aussi, et effectivement là pour le coup, cette image de l'équipe de France, moi j'étais encore en Afrique du Sud hier, et bien l'une des premières choses qu'on m'a dit en voyant, on dit mais bravo à votre équipe exceptionnelle, ce qu'a fait l'équipe de France, et tout le monde en parle.
Étienne Girard, même question.
Moi, je suis pas sûr que ça en a un impact aussi important. Je lisais d'ailleurs il y a quelques jours que le club de Saint-Étienne a perdu depuis l'année dernière 30% de ses abonnés. Donc, vous voyez, l'effet Coupe du Monde n'est pas automatique. En 1998, il y avait l'effet Coupe du Monde, certes, mais l'effet Coupe du Monde en France.
C'est important, ça.
Les gens avaient pris l'habitude d'aller au stade. Il y a eu un effet d'entraînement. Bon, donc ce sera pas automatique. Cela dit, ce qu'on peut penser, c'est que les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde et qui jouent en France ont pris de la valeur. Et donc, s'ils sont vendus demain sur le marché des transferts, ils seront vendus plus cher. Et donc, ça fera un pouvoir d'achat plus important pour les clubs de Ligue 1. Mais il y a quand même un principe de réalité. Je sais pas si vous avez suivi le marché des transferts. C'est que la France, au niveau des prix à mettre sur le marché, reste un petit pousset absolu par rapport, par exemple, à la première ligue anglaise. Alors, hier, il y a un joueur de l'Olympique de Marseille qui est un bon joueur, mais qui n'est pas un cador futur top player européen, qui a été vendu plus de 30 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Il y a 15 ans, c'était le joueur le plus cher du monde qui était vendu à ces prix-là. Donc, on peut pas rivaliser aujourd'hui, Coupe du Monde ou pas. On est sans doute un très bon pays au niveau de la sélection nationale, mais au niveau des clubs, pour de nombreuses raisons, et la raison principale étant la raison financière, on ne peut pas rivaliser avec le championnat anglais et on ne peut pas rivaliser avec le championnat d'Espagne.
Félix Raymond Colonna, rapidement, est-ce qu'il y avait un impact ?
Un impact, en tout cas, la Ligue de football professionnel, avec le soutien de la Fédération française de football, va mettre à l'honneur nos 8 joueurs qui évoluent en Ligue 1, voilà, les honorer, les fêter dans le championnat. Après, le point négatif de tout ça, c'est que les clubs amateurs se plaignent des retombées qui sont pour eux très faibles,
minimales, oui.
Qui sont pour eux minimales, alors que dans la formation des joueurs, ils sont en première ligne.
Allez, on va continuer d'en parler dans un court instant dans les informés de France Info de cet impact de la victoire en Coupe du Monde. On entendra évidemment Rodrigue Tchoual qui n'a pas encore pu en placer une dans ce débat qui passionne. 20h50 pour l'instant, l'essentiel de l'info de ce vendredi avec Augustin Arrivé.
Marseille-Toulouse, premier match de la première journée de la Ligue 1 de football. Ça vient de commencer, 3 minutes de jeu et toujours 0-0. L'assistance vidéo fait son entrée dans le championnat de France. Un alpiniste italien porté disparu depuis mardi sur le massif du Mont-Blanc a été retrouvé mort aujourd'hui. Peu d'espoir désormais de secourir à temps les deux camarades avec qui il était parti. Les gendarmes continuent leur recherche. Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame ce soir une enquête crédible au Yémen. C'est ce que souhaitait déjà cette nuit le secrétaire général des Nations Unies. Un raid de la coalition menée par l'Arabie Saoudite a tué hier au moins 29 enfants, coalition qui accuse les rebelles houthis d'utiliser ces enfants comme boucliers humains. Deux gérants associatifs allemands en garde à vue, le terrain englouti par la crue de l'Ardèche hier à Saint-Julien-de-Pérola, c'était sous leur responsabilité, c'est dans le Gard. Un homme de 66 ans est toujours porté disparu, il encadrait une colonie de vacances installée sur place. La mairie avait apparemment averti que la zone était inondable. Le rappel aujourd'hui de fromage de chèvre Pélardon, la société Mounier les avait commercialisés depuis la mi-juillet sur les marchés et dans les commerces de détail, mais il présente ces fromages des risques de contamination à la salmonelle. Et puis Pierre Lecor, sacré champion d'Europe de triathlon à 28 ans, c'est le premier titre international de sa carrière. Il s'est imposé tout à l'heure au championnat multisport de Glasgow.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Aurélien Accard.
Et on parle football dans les informés. C'est pas tous les soirs, mais en même temps, c'est pas tous les soirs la reprise du championnat de Ligue 1. Et c'est pas tous les ans non plus qu'on est champion du monde. Allez, je triche un peu en vous mettant Gloria Gaynor dans les oreilles, mais la question ce soir dans les informés, c'est ça. Près d'un mois après ce 15 juillet qui nous a quand même, faut l'avouer, donné le sourire à tous, hein, même à vous, je vous vois là derrière le poste qui n'aimait pas le foot d'habitude, vous avez aussi souri sans doute. Que reste-t-il de cette deuxième étoile? Est-ce qu'on est encore dans l'ambiance et quel impact ça va avoir sur notre championnat national, Rodrigue Tual?
Alors, déjà, que reste-t-il? Moi, je pense beaucoup. On parle au-delà, je vais venir sur la Ligue 1, mais je pense que cette Coupe du Monde a fait, et on l'a vu, énormément de bien à la France, à la solidarité nationale. On voyait dans les rues, et on n'avait plus vu ça, effectivement, depuis 98, une joie, une ferveur incroyable. Moi, je pense que c'est des moments comme ça qui font aussi du bien et qui nous rappellent pourquoi ce sport est aussi important dans le cœur des Français. Et en ce qui concerne la Ligue 1, je pense que effectivement demain, la Ligue 1 ne va pas se transformer en la First League ou en la Liga. Clairement, ça a aussi un impact parce qu'on a évidemment 8 ou 9 joueurs français qui sont champions du monde, qui jouent dans l'équipe, dans le championnat de France.
Ils sont 8, exactement.
Dont certains, dont un bon nombre, je ne sais pas exactement combien, ont été formés en France. Ça, c'est aussi important parce que c'est l'élément qui est clé, c'est que beaucoup de personnes, que ce soit des investisseurs, que ce soit des clubs étrangers ou que ce soit de manière générale dans le monde du football, peuvent constater qu'en France, on forme bien nos joueurs. Ça, c'est le premier point. Et le second point, alors ça, on n'a pas attendu la Coupe du Monde.
Il y a 21 des 23 bleus qui ont été formés en France, si vous voulez la précision.
C'est excellent. C'est excellent. Et l'autre point, alors ça, on n'a pas attendu la Coupe du Monde, mais avec des clubs comme notamment le PSG qui sont très attractifs sur le marché des transferts, où on a des joueurs dans le championnat de France. Alors souvent on en parle de façon critique, mais je pense que c'est quand même une bonne chose. Quand on a des joueurs comme Neymar, comme Mbappé, qui font quand même tous les deux figure de prétendants au Ballon d'Or, c'est des choses qui rendent obligatoirement et assez logiquement le championnat de France plus attractif, ne serait-ce que pour voir le PSG jouer face aux autres équipes. Donc, et comme le disaient certains entraîneurs, ce qui profite évidemment au PSG profite également à certains, dans une moindre mesure évidemment, mais à d'autres équipes du championnat de France parce qu'ils sont plus regardés. D'ailleurs, le déplacement en Chine visait aussi cela, c'est rendre le championnat de France plus attractif, plus connu au niveau mondial.
Autre nouveauté qui nous vient directement quasiment de Russie, c'est cette fameuse assistance vidéo à l'arbitrage qu'on va découvrir dans le cadre de la Ligue 1. Est-ce que c'est une bonne chose, Sébastien Hervieux?
Moi, je suis toujours assez amusé par ce débat et en disant est-ce que ça va tuer le jeu, ça va ralentir le jeu. Et en fait, il y a une sorte de grande contradiction dans le football mondial, notamment le football business, qui est... On voit bien avec l'organisation notamment de la FIFA et même la compétition au niveau des champions nationaux, il n'y a plus rien qui est laissé au hasard. L'organisation, la formation des joueurs, la communication, on fait attention à tout ça. Et tout d'un coup, il faudrait que sur le terrain, en termes de règles du jeu, on pourrait laisser passer des erreurs. Alors c'est marrant, moi je me rappelle, j'avais couvert la Coupe du Monde de football en 2010 en Afrique du Sud, quand j'étais correspondant là-bas. Et Seb Blatter avait dit à l'époque, mais une erreur c'est importante. C'est une erreur, c'est important qu'il y ait des erreurs de jeu pour que ça suscite de l'émotion, pour que ça suscite de l'énervement, les journalistes puissent écrire des choses dans les papiers. Et donc voilà, et finalement, là, on est dans cette tension un peu. Et je sais pas ce qui.
Ça pourrait manquer, c'est ça, si je comprends bien.
Moi, je suis pas du tout nostalgique. Je me dis que quand une équipe ou mon équipe se fait avoir sur un but, j'aimerais bien que la justice prime et que ça soit pas juste la beauté du sport qui gagne.
C'est le problème.
Ouais, Félix Raymond Colonna sur cet arbitrage vidéo.
Les oreilles des arbitres vont peut-être un peu moins siffler.
Oui, il faut penser à ça aussi, je crois. Oui,
et en même temps, de l'émotion et du suspense, il y en a quand même, parce qu'il y a des moments, il y a toujours une interprétation, Etienne Girard.
Le suspense et l'émotion dans le football ne se résument pas, heureusement, aux erreurs d'arbitrage. si demain on n'a pas de Séville, puisque de Séville 1982, on peut penser que l'arbitre à la vidéo aurait vu la faute du goal. Si demain on n'a pas la main de Vata qui 1989, il me semble, qui empêche l'Olympique de Marseille d'aller en finale de la Coupe des Champions. Si on n'a pas demain ça, mais la véritable équipe qui mérite de gagner, qui l'emporte. porte. Je peux vous dire que des émotions, on va en trouver, et on va en trouver ailleurs. Moi, au départ, j'étais, pour tout vous dire, réfractaire à la vidéo, mais pas pour cette raison-là, parce que je pensais que ça allait couper le rythme du match. En réalité, on a vu à la Coupe du Monde que regarder une action à la vidéo, ça prend pas plus de temps qu'attendre qu'un joueur un peu blessé ou qui pleurniche comme Neymar se relève. Ça prend pas plus de temps. Donc finalement, le jeu n'est pas coupé, le rythme n'est pas coupé et ça enlève pas les discussions puisque par exemple la vidéo en finale de la Coupe du Monde, il y a des gens qui disent oh mais la main fallait pas la siffler. Donc il y en aura toujours des discussions, mais si ça peut un peu atténuer le sentiment d'injustice qu'il peut y avoir parfois, je pense que c'est une bonne chose, une bonne réforme.
Rodrigue Tual, pareil sur l'arbitrage vidéo.
Non, mais d'autant plus que nous en tant que Français, je pense pas qu'on puisse vraiment se plaindre de l'arbitrage vidéo puisqu'il nous a été plutôt favorable globalement durant la Coupe du Monde. Donc
vous avez fait du mal au tout début, premier test au match amical, et puis finalement
nous a fait du mal, mais c'était pas très important, donc ça va, c'est plutôt une bonne chose, et moi je suis plutôt pour, puisque ça faisait longtemps qu'on le demandait, on l'a.
Allez, c'est déjà la fin des informés pour ce soir. Merci à nos invités, Sébastien Hervieux, journaliste à Courrier International. De quoi parle Courrier International en ce moment ?
Là, on va faire un dossier sur le changement climatique. Est-ce que c'est vraiment trop tard pour changer les choses ?
Étienne Girard de Marianne, de quoi on parle dans Marianne ?
Alors cette semaine, on s'intéresse aux impôts et le grand bordel à venir.
Bravo
l'année prochaine.
Pour le titre, Félix Raymond Colonna, communicant, cofondateur à l'agence de la Roca Conseil. Merci également d'avoir participé aux informés. Et merci aussi à Rodrigue Tual, avocat et président, cofondateur du Cercle EB. Les informés reviennent lundi. Ce sera à 20h avec Guillaume Caour. Ça a été un plaisir de vous accompagner pendant deux semaines. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Info.